Alors, ce matin, on va retrouver un peu le sens de la prière d'Aldo il y a quelques moments dans ce partage autour de Actes chapitre 1. Donc, on va commencer par la lecture d'Actes chapitre 1, versets 1 à 11. Actes chapitre 1, verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est donc Luc qui écrit, l'auteur de l'Évangile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors peut-être cette semaine, vous avez vu le retour du marché de Noël un peu partout. Peut-être vous avez remarqué chez le fleuriste l'apparition des couronnes avec les quatre bougies dessus. Bien évidemment, cela signifie qu'aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Alors, certes, on est toujours au mois de novembre, mais cette année est un peu particulière parce que, je ne sais pas si vous savez sur quel jour va tomber Noël cette année, ça va tomber sur un dimanche. Du coup, puisque l'Avent marque les quatre dimanches avant Noël, forcément, tout est un petit peu en avance. L'année prochaine et l'année suivante, ça devrait être au moins le cas. On commencera l'Avent un peu plus tard parce que le dernier dimanche sera juste avant le jour de Noël. Mais voilà donc, puisqu'on marque ces quatre dimanches, cette année on commence bien au mois de novembre. Mais c'est une période qui est là pour souligner l'attente de la venue du Seigneur et qui est là pour nous rappeler qu'il y avait les gens fidèles qui attendaient le retour du Seigneur. Traditionnellement, on souligne les prophéties qui avaient été données, les promesses qui avaient été données concernant la venue de Jésus, qui nous rappellent que Jésus n'est pas venu de nulle part, que Dieu n'a pas été pris de panique en voyant ce que l'être humain pouvait faire pour devoir chercher un plan B pour réparer les choses. Mais dès le départ, il avait fait des annonces, comme les enfants nous le chantent souvent à l'époque de Noël. « Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. » Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Parce que donc, lorsque Jésus est venu, c'était à la suite de toute une série de prophéties le concernant, et surtout, c'était dans le cadre d'un plan éternel que Dieu avait mis en place le concernant. Alors, Jean chapitre 1, versets 1 et 2 nous montre que l'histoire de Jésus ne commence pas ni à Noël, ni avec l'annonce à Marie, mais que l'histoire de Jésus se trouve dans l'éternité avant même la création de l'univers. Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Jean ait choisi de commencer son histoire de Jésus avec les mêmes phrases qu'on trouve au début de Genèse pour parler du commencement de toute chose, du commencement de la création. Jésus était là, lui, la parole de Dieu était là avant la création de l'univers. Mais la Bible nous montre que son histoire éternelle ne se situe pas uniquement au niveau de sa nature divine, du fait qu'il soit Dieu et que donc forcément il existe depuis toujours. Mais la Bible nous montre que même dans son rôle de Messie, donc du Sauveur qui allait venir, Jésus était, l'histoire de Jésus commence bien avant la création du monde. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 20, nous lisons que prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Mais déjà prédestiné à être notre sauveur avant la fondation du monde. Et en Éphésiens, chapitre 1, verset 4, Paul dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Dieu, qui savait tout ce qui allait se passer, avait déjà prévu de nous ramener à lui par Jésus-Christ avant même qu'il ne crée l'univers. Et puis donc, puisque ce rôle de Jésus se situe dans ce plan éternel, par la suite, Dieu a pu l'annoncer depuis l'entrée du péché dans le monde, depuis que l'homme a été séparé de Dieu. Il a pu dire à son peuple, j'ai un plan. Je ne suis pas surpris, je ne suis pas pris au dépourvu, mais j'ai un plan pour vous sauver. Genèse chapitre 3, l'entrée du péché dans le monde. Dieu, tout en condamnant le serpent qui avait tenté Ève, dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Donc cette postérité née d'une femme, comme Paul va dire aux Galates. « Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Jésus, dès Genèse 3, est annoncé. Et puis par la suite, si c'est avec les patriarches, il y a des promesses que Dieu donne concernant la venue de ce Sauveur dans le monde qu'il avait prévu d'envoyer. Il y a des promesses qui sont données à David. Il y a des promesses que David et des prophéties que David donne dans les psaumes concernant le Messie à venir. Il y a toutes les prophéties chez les prophètes annoncer que Dieu allait envoyer le Messie pour être le sauveur du monde. Mais bien évidemment, le fait que Dieu donne des promesses ne veut pas dire que tout le monde y croit. On a vu déjà mercredi dernier, mais aussi les semaines précédentes, dans l'étude d'Ésaïe, qu'il y a toujours eu des moqueurs qui, en entendant les promesses de Dieu, se moquent et rigolent sur les promesses de Dieu, ne les prennent pas au sérieux. Mais malgré tout, lorsque Jésus est venu dans le monde, il y avait tout un peuple fidèle qui croyait dans ces promesses de Dieu, qui l'attendait. Luc chapitre 2, verset 25, nous parle de Siméon qui s'est trouvé au temple le jour où Marie et Joseph ont apporté Jésus pour le présenter au temple. Et Luc nous dit, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Pourquoi il pouvait attendre? Parce qu'il avait foi, il avait confiance dans les promesses que Dieu avait données. Il savait que Dieu avait promis qu'il allait envoyer un Messie, un Sauveur. Et donc il s'est réjoui de voir la réalisation de ces promesses à son époque. De voir que Jésus était là, que le Christ, le Messie, était là. Mais c'était une attente qui était assez largement répandue parmi le peuple. Et même parfois des personnes surprenantes qui avaient cette foi dans les promesses de Dieu. En Jean chapitre 4, on a l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine, mais on se rend compte que même elle savait que ce Messie allait venir, avait cette confiance que Dieu ferait bien un jour ce qu'il avait promis. La femme lui dit dans le verset 25, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Surprenant parfois les personnages qui croient, n'est-ce pas? Comme Rahab, la prostituée dans l'Ancien Testament, qui avait cette conviction que Dieu allait bel et bien faire ce qu'il avait dit concernant le territoire de Canaan, qu'il allait le donner à Israël, et donc qui a agi en conséquence, qui a caché les espions parce qu'elle était convaincue que Dieu ferait bien ce qu'il avait dit. Ben, ici, nous voyons cette femme samaritaine aussi qui croit que le Messie doit venir, qui croit que le Christ allait venir parce que Dieu l'avait dit. Et puis dans le verset 26, Jésus lui dit, « Je le suis. » Moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Doublement surprenant, cette femme avait la conviction que le Messie devait venir. Mais en plus, elle pouvait retourner dans sa ville, et pourtant, elle n'était pas judéenne, elle n'était pas israélite, c'était une femme samaritaine qui a pu aller voir les autres samaritains de sa ville et leur dire, je crois que le Messie est venu. Je crois que celui qui a été promis est venu. Il vivait dans cette attente de la venue du Messie. Et donc, lorsque les apôtres ont annoncé qui était Jésus plus tard, ben, ils ont pu s'appuyer sur les prophéties de l'Ancien Testament pour dire, vous voyez que Dieu avait promis que le Messie allait venir. Vous avez vu tout ce qu'il avait dit au sujet de son Messie, alors voici, le Messie est venu. Cette femme samaritaine dit, ne serait-ce pas le Christ, le Messie? Les apôtres ont pu dire, si, si. C'est bel et bien le Messie, parce que regardez sa vie qui correspond aux promesses faites par Dieu. Et d'ailleurs, en faisant cela, les apôtres suivaient finalement l'exemple de ce que Jésus avait fait avec eux. Dans Luc chapitre 24, verset 25, cette histoire de la rencontre entre Jésus et des disciples sur le chemin d'Emmaüs après sa résurrection, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ces gens donc qui attendaient la venue du Messie, C'était des gens qui avaient foi, qui avaient confiance dans les promesses, dans les prophéties que Dieu avait données, et du coup qui vivaient dans l'attente de la venue du Messie. Et nous, ben nous sommes invités à imiter leur foi, à avoir une foi similaire dans les promesses de Dieu. Pour nous, nous savons que Jésus est venu. Nous avons des éléments historiques sur lesquels nous appuyer pour savoir que Jésus est venu et même pour savoir que Jésus est ressuscité. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 jusqu'au verset 7, l'apôtre Paul peut dire « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. » Donc, Paul pouvait écrire aux chrétiens de Corinthe en leur disant, il y a des preuves, il y a des témoins qui ont rencontré le Messie, qui savent que Jésus est venu, qui savent que Jésus est mort sur la croix, qui peuvent témoigner aussi de l'avoir rencontré après sa résurrection. Donc, là-dessus, nous ne sommes plus dans l'attente de la venue du Messie, comme ces gens de l'Ancien Testament et le début du Nouveau. Mais nous sommes appelés à imiter leur foi avec une confiance que celui qui a fait les promesses concernant la venue du Messie nous a également donné des promesses pour dire que ce Messie va un jour revenir sur la terre, va revenir chercher son Église, va revenir pour établir le royaume de Dieu sur la terre, va revenir pour être le juge de toute l'humanité. Parce que bien évidemment, Jésus est bien plus qu'un personnage de l'histoire. Nous avons des preuves historiques qu'il était là, mais la Bible nous dit qu'il est bien plus que cela. Verset 11 du passage que nous avons lu au début dans Actes chapitre 1, les anges ont pu dire « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc, comme dans l'Ancien Testament, dès que le péché est entré dans le monde, Dieu pouvait annoncer « J'ai un projet ». J'ai un Messie qui va venir pour être le Sauveur. Dans le Nouveau Testament, dès que Jésus est monté au ciel, les anges ont pu déjà dire aux apôtres, « Vous inquiétez pas, il est parti aujourd'hui, mais il va revenir de la même manière. Autant physique qu'il est parti, autant physiquement il va aussi revenir sur la terre, parce qu'il est le vivant. Il n'est pas mort, il n'est plus mort, comme il le dit lui-même dans Apocalypse, chapitre 1, versets 18 et 19. « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite. » Dieu nous a donné cette promesse que Jésus va revenir. Un peu plus haut dans le même chapitre, Apocalypse 1, verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Nous avons donc ces promesses dans lesquelles nous pouvons faire confiance que Jésus va revenir. Comme les fidèles de l'Ancien Testament pouvaient bâtir leur vie sur cette promesse que le Messie allait venir, qu'un sauveur allait venir, nous pouvons et devons vivre dans cette attente du retour du même Messie. Parce que la Bible nous dit qu'après qu'il est ressuscité, et donc qu'il est, comme il dit, vivant pour toujours, j'étais mort, mais voici, je suis maintenant vivant pour toujours, en tant que ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, mais que pour un temps, jusqu'au jour où le Père décide de lui dire de revenir sur la terre. Pour ça qu'en Philippiens 3, verset 20, l'apôtre Paul a pu écrire, mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc, certes, pour le moment, le Seigneur Jésus, qui n'est plus mort, qui est vivant, car ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père dans le ciel. Mais nous savons que le jour vient où il va revenir du ciel sur la terre. Alors, le cantique que j'ai cité tout à l'heure souligne ces personnages de l'époque de Jésus qui disaient « Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes et nous attendions cet heureux temps. » Parfois, le temps d'attente me semblait long, n'est-ce pas? Si on se remet dans notre enfance, rien que cette période de l'Avent, 4 semaines jusqu'à Noël, qu'est-ce que ça semblait long? En tant que parent, c'est plutôt la panique. Quoi? Il ne reste plus que 4 semaines pour tout préparer pour Noël? Mais enfant, ça semble long. Parfois, ça peut nous sembler long, ce temps d'attente. Et nous, on n'est qu'à la moitié du temps d'attente de ceux de l'Ancien Testament. Mais voilà donc, le fait que l'attente peut sembler long n'enlève rien à la réalité. Tout comme les 4000 ans d'attente de la venue du Messie n'ont rien changé dans le fait que Siméon a pu se réjouir de voir le jour où le Messie allait être là au temple. Le fait qu'il y ait encore aujourd'hui des moqueurs, comme nous le prévient l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 3, n'enlève rien à la réalité de ses promesses. Il ne faut pas permettre ni à la longueur de l'attente, ni au fait qu'il y ait des gens qui se moquent de cette idée, à miner notre foi dans les promesses de Dieu qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Pierre dit donc, sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Donc quand on rencontre des gens qui rigolent à l'idée que Jésus va revenir, qui disent que ce n'est que des histoires pour des enfants, nous pouvons leur dire, vous savez que vous vous trouvez dans la Bible ? Parce que finalement, Pierre nous dit, soyez pas surpris, il y aura des moqueurs qui viendront et qui disent, mais où est cette promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. De plus loin, n'hésitez, il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ne permettons pas donc à ces circonstances de miner notre confiance dans les promesses de Dieu et du coup de vivre à la lumière de cette promesse que Jésus va revenir, que Jésus va établir le royaume de Dieu, que Jésus va être le juge de toute l'humanité. En Matthieu 24 et Matthieu 25, nous avons ces histoires des serviteurs dont le maître part, des vierges qui attendent l'époux, pour souligner que ces promesses du retour de Jésus doivent modeler, façonner notre manière de vivre pour qu'on vive fidèlement au Seigneur, attendant son retour pour ne pas être surpris par son retour. Parce que finalement, comme on voit régulièrement, la foi n'est pas quelque chose de juste théorique, où on voit que dans la confession de foi, il est marqué que Jésus va revenir une deuxième fois, et on dit, oh ben oui, ben, j'y crois. Mais où c'est quelque chose de pratique dans notre vie qui façonne notre manière de vivre, et où on se dit, Jésus va revenir. Donc je m'accroche à lui. Je ne permets pas aux choses de la vie de me détourner de lui, parce que je sais que ce monde, avec tout ce qu'elle renferme, est voué à la destruction. Donc je serais bête de fonder ma vie là-dessus, alors que je peux fonder ma vie sur celui qui va revenir pour établir le royaume de Dieu. À quoi bon fonder sa vie et donner l'importance principale à toute chose de ce monde ? Si c'est des personnes, si c'est de l'argent, si c'est des biens, quand tout cela est voué à la disparition, mais que nous sommes invités à fonder notre vie sur celui qui va revenir, à être fidèle à lui, à attendre fidèlement son retour, parce que celui qui a fait cette promesse qu'il va revenir est le même qui a fait la promesse qu'il allait venir une première fois pour être le sauveur du monde. Nous sommes donc appelés à imiter la foi de ces fidèles de l'Ancien Testament, à vivre dans l'attente du retour du Messie. Mais comment est-ce qu'on est appelé à attendre? Et qu'est-ce qu'on fait en attendant? Ce passage dans Actes chapitre 1 nous montre que ce n'est pas juste une question d'une attente passive où on reste là à l'église à tourner les pouces avec les yeux rivés sur le ciel en attendant le retour du Seigneur. Lorsque Jésus fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux, ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait. Mais voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Le but, leur disent les anges, n'est pas que vous restiez là sur le mont des Oliviers à attendre son retour maintenant. Oui, il a fait cette promesse qu'il allait revenir physiquement, qu'il allait poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Donc, d'un côté, on comprend les disciples qui sont les bons. Bah, écoute, on sort les chaises de camping, on s'installe là en attendant son retour. Mais les anges ont rappelé les instructions de Jésus. Mais Jésus vous a jamais dit de rester là, les yeux rivés vers les nuages, en attendant qu'il revienne. Et heureusement pour les disciples que les anges sont intervenus. Sinon, il n'y aurait plus que 11 pierres tombales sur le haut du mont des Oliviers, parce que ils seraient morts les uns après les autres en train d'attendre le retour du Seigneur. Mais l'histoire de Actes chapitre 1 continue après que Jésus soit enlevé au ciel. Jésus leur avait dit de retourner après qu'il soit parti à Jérusalem, d'attendre d'être rempli du Saint-Esprit et donc d'être ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'était ça son projet pour eux, non pas de rester juste les yeux rivés vers le ciel. Donc l'histoire continue par le jour de la Pentecôte et puis par tous les actes des apôtres fondant les églises partout dans le monde connu de l'époque. Donc, ils étaient appelés à effectuer cette mission que Dieu leur avait donnée. Jésus est monté à la droite du Père jusqu'au jour où il va revenir. Mais en même temps, il pouvait dire aux disciples, « Moi, je m'en vais, mais je ne vais pas vous laisser seul. D'ailleurs, il va dire dans Jean chapitre 16 qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il a dit, je pars auprès du Père, je vais revenir. Mais en attendant que je revienne, je vais envoyer ce Consolateur pour être auprès de vous, qui va vous équiper, vous permettre d'accomplir la mission que je vous confie. Jésus donc part pour envoyer le Saint-Esprit sur la terre en attendant son retour. Et c'est lui qui va effectuer l'œuvre de Dieu dans nos vies et autour de nous. C'est lui qui va nous équiper avec les dons que Dieu a prévus pour son Église et dont nous avons besoin pour accomplir la mission du Seigneur. C'est lui qui va produire son fruit dans nos vies par sa présence. C'est lui qui va guérir, c'est lui qui va restaurer, c'est lui qui, lorsqu'il le faut, va convaincre du péché. C'est pour ça que Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Comme ça, je vous enverrai le Consolateur. Est-ce que nous attendons que ces promesses aussi soient accomplies, se réalisent dans notre vie, dans ce temps d'attente du retour du Messie? Est-ce que nous attendons que dans nos circonstances de vie, le Saint-Esprit soit à l'œuvre? À nouveau, revenant sur la prière d'Aldo, est-ce que nous analysons nos circonstances de vie comme n'importe qui, comme nos voisins, comme des gens autour de nous qui ne connaissent pas ce Consolateur? Ou est-ce que j'analyse mes circonstances de vie, ce qui m'arrive, en me disant, voilà, il y a telle circonstance, mais je sais que le Saint-Esprit est là avec moi. Je sais que Dieu a envoyé ce Consolateur pour traverser cette situation avec moi et pour réaliser le projet de Dieu dans cette circonstance-là de ma vie. J'attends à ce que lui, il œuvre dans cette circonstance parce que je crois que Jésus est monté au ciel en attendant le jour de son retour et qu'il a promis d'envoyer son esprit dans cette circonstance. Il est possible, il est même parfois plus facile d'avoir de la foi en ce qui concerne le passé, de croire que Dieu a réalisé les prophéties concernant la venue du Messie, que Jésus est celui qui devait venir, qu'il est venu, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, et puis de croire pour le futur que ce Messie va revenir. C'est parfois plus simple de croire cela que de croire que dans le présent, celui qui a fait la promesse que le Messie allait venir, celui qui a fait la promesse que le Messie va revenir, a également fait la promesse qu'il allait donner son esprit, ce Consolateur, à son Église pour ce temps d'attente, pour réaliser ses projets dans notre vie. C'est parfois plus difficile lorsqu'il s'agit du concret de notre vie d'aujourd'hui. Et pourtant, c'est le même Dieu qui a fait les promesses. Tout comme il a été fidèle aux promesses du Messie, tout comme il va être fidèle aux promesses concernant le retour du Messie, il est fidèle aussi en ce qui concerne la présence du Saint-Esprit dans son Église, dans notre vie, dans nos circonstances, pour nous transformer dans nos circonstances. Donc, nous avons besoin, effectivement, de vivre les yeux ouverts, non seulement ouverts vers les cieux, pour scruter les cieux pour le retour du Seigneur, mais aussi d'avoir les yeux ouverts pour voir la venue et l'action du Saint-Esprit dans notre vie présente, dans nos circonstances de vie. et de croire que ces promesses vont se réaliser de la même façon, car ces promesses dépendent du même Dieu fidèle, tout-puissant, qui a donné les autres promesses en ce qui concerne le Messie. Donc ce matin, je propose qu'on puisse prendre un moment en prière devant le Seigneur. Ouvrons nos yeux avec foi, ouvrons nos cœurs, regardons nos circonstances à la lumière des promesses de Dieu, à la lumière des promesses de la venue de son Esprit, à la lumière des promesses de l'action qu'accomplira son Esprit. Rappelons-nous qu'effectivement, nous ne sommes pas seuls dans ces circonstances, parce que Jésus a dit, même si je m'en vais, le temps où vous attendiez mon retour, je ne vais pas vous laisser seul, mais je serai avec vous par mon Esprit. Ouvrons donc nos cœurs ce matin à l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse guider notre foi, façonner notre foi, nous convaincre de la fidélité de Dieu à réaliser ses promesses. Et que nous puissions donc voir nos circonstances de vie à la lumière de la présence du Seigneur en nous.